Chapitre 7. Année heureuse, année travailleuse.
Demain, écrivait-il à ses parents, demain je traverserai les mers.
Il traversa les boulevards et rencontra le prince Valentin Radziwill. Cette famille Radziwill semble avoir eu sur la vie de Chopin une influence particulière. Quel beau rapprochement on pourrait faire en comparant cette rencontre à telle autre où un pape, un roi, un grand seigneur ou quelques fermiers général modifièrent en un instant la fortune d'un artiste apparemment condamné à l'avortement de son génie. Il semble qu'il y ait entre l'art et l'opulence de secrètes et inconscientes fécondations. François Ier ne nous paraît jamais mieux inspiré qu'en payant les dettes de Clément Marot ou en accueillant le Vinci sur les terrasses d'Amboise. Ni Jules II plus sympathique qu'en grimpant aux échafaudages de Michel-Ange. Ni Élisabeth d'Angleterre plus intelligente qu'en commandant à Shakespeare les joyeuses commères de Windsor. Et l'on ne se souvient du surintendant Fouquet que parce qu'il pensionna La Fontaine. S'ils avaient eux-mêmes dicté leur biographie, sans doute ces princes n'eussent-ils pas mentionné de si médiocres gestes. Tout de même, ce Radziwill n'imaginait pas ajouter à sa vie une ligne de mérite lorsque, rencontrant sur les boulevards ce compatriote pitoyable, il proposa de l'emmener le soir même chez le baron de Rothschild. C'est pourtant de cette offre négligente que date la gloire de Chopin. Le baron recevait la société la plus délicate. On demande à Chopin de jouer et il s'exécute de bonne grâce. En un instant, il conquiert cette foule élégante et, dès le lendemain, est bombardé d'invitations et de demandes de leçons. Les leçons qu'il donne ne coûtent pas moins de 20 francs l'heure. Il change deux fois de logis et s'installe enfin au numéro 5 de la chaussée d'Antin. On commence à parler un peu partout de ce poète qui, la nuit, dans les rares salons où il consent à jouer, peuple l'obscurité d'une assemblée de fées. Il appelait ça « conter de petites histoires musicales ». C'était des récits variés à l'infini, car c'est en improvisant surtout qu'il montrait ses hardiesses. L'inachevé de ses esquisses ouvrait dans l'imagination des avenues où l'esprit allait se perdre. Chopin possédait à un haut degré ce pouvoir de suggérer, qui est le don le plus précieux de l'artiste. Il conversait avec lui-même, ne concluait point, et laissait à ses auditeurs le plaisir d'avoir pendant un instant vêtu de notes, des formes et des sentiments qui s'éparpillaient ensuite dans le néant. Divine chatterie, faisait Berlioz en les écoutant. Vapeur amoureuse, rose d'hiver, disait Liszt. Par la porte merveilleuse, ajoutait-il, Chopin faisait entrer dans un monde où tout est miracle charmant, surprise folle, miracle réalisé. Mais il fallait être initié pour savoir comment on en franchit le seuil. Et Frédéric confiait une fois à son ami Franz
« Je ne suis point propre à donner des concerts. La foule m'intimide. Je me sens asphyxié par ces haleines précipitées, paralysé par ces regards curieux, muet devant ces visages étrangers. Mais toi, tu y es destiné, car quand tu ne gagnes pas ton public, tu as de quoi l'assommer. »
Chopin, lui, n'en aurait pas eu la force. Il ne cherchait jamais qu'à le gagner. Et encore, est-ce bien là ce qu'il voulait ? Le public lui importait si peu. C'est son propre mal qu'il chantait et enchantait. Il n'aimait pas à s'exprimer par le moyen des autres, et Bach, Beethoven et Mozart exceptés, n'interprétaient que lui-même. Pour Chopin, comme plus tard pour Wagner, le superflu était le seul nécessaire. L'argent, qui lui venait maintenant en certaine abondance, se dépensait en jouissances poétiques. Un joli cabriolet, des vêtements d'excellente coupe, des gants blancs, des soupers chers. Il soignait l'ameublement de son intérieur, y mettait des lustres en cristal, des tapis, de l'argenterie, voulait qu'en toute saison il fût pourvu de fleurs. Et lorsqu'y venaient ses nouvelles amies, la comtesse Delphine Poloshka, la princesse Marceline Kchatorichka, mademoiselle O'Meara, la princesse de Beauvau, la règle était qu'elles apportassent une rose ou des orchidées que l'artiste mettait trempées dans un vase et qu'il contemplait sans fin, comme un japonais s'enivre d'une estampe unique. Année heureuse, année travailleuse. Chopin compose une partie solide de son œuvre. Ses œuvres sont jouées dans beaucoup de concerts par les plus célèbres virtuoses. Liszt, Moscheles, Field, Kalkbrenner et Clara Wieck. Pour ce jeune homme de 24 ans, la terre natale est toujours la plus forte passion. Il incorpore une douleur dantesque dans ce nom de Pologne, plus puissant sur son cœur que l'appel d'une maîtresse. C'est que la Pologne reste sa source vive, la nappe où il puisait images et sentiments, le seul rythme efficace, en somme, le moteur de ses énergies. L'inspiration est un hasard saisi au vol. Mais l'art ne s'y trouve pas caché comme la colombe dans le chapeau du prestidigitateur. Peut-être n'est-il qu'une parfaite connaissance de soi, la vue exacte de ses limites et les modulations qu'enseigne la vie à nos élans de jeunesse. Le marquis de Custine écrivait à Chopin « Quand je vous écoute, je me crois toujours seul avec vous, et peut-être avec mieux que vous encore, ou du moins avec ce qu'il y a de mieux en vous. » Au printemps de l'année 34, Chopin et son ami Hiller se rendent ensemble au festival de musique d'Aix-la-Chapelle. Ils y trouvent Mendelssohn, qui se prend d'affection pour le Polonais et ne se lasse pas de l'entendre jouer. Il le déclare le premier des pianistes, toutefois lui reproche, aussi bien qu'à Hiller, cette manie parisienne de poser pour des désespérés. « Moi, j'ai tout l'air d'un magister, » dit-il. « Eux ressemblent aux mirliflores et aux incroyables. » Berlioz écrit dans Le Rénovateur « Chopin, comme exécutant et comme compositeur, est un artiste à part. Il n'a pas un point de ressemblance avec un autre musicien de ma connaissance. Malheureusement, il n'y a guère que Chopin lui-même qui puisse jouer sa musique et lui donner ce tour original, cet imprévu, qui est un de ses charmes principaux. Son exécution est marbrée de mille nuances de mouvements dont il a seul le secret et qu'on ne pourrait indiquer. Il y a des détails incroyables dans ces mazurkas. Encore a-t-il trouvé de les rendre doublement intéressants en les exécutant avec le dernier degré de douceur, au superlatif du piano, les marteaux effleurant les cordes, tellement qu'on est tenté de s'approcher de l'instrument et de prêter l'oreille, comme on ferait à un concert de sylph et de follet. Mais la foule donne toujours la palme aux brillants, et Chopin, jugeant qu'elle n'avait pas réservé l'accueil qu'il en attendait à son concerto en mi mineur, déclare qu'il n'est ni compris ni fait pour les concerts et décide de s'abstenir pendant longtemps de paraître sur l'estrade. Pourtant, il joua encore une fois en public le 26 avril de 1835 au conservatoire. C'est l'unique fois qu'il parut dans cette illustre salle. Il y exécuta sa polonaise brillante, précédée d'un andante spianato. Il trouvait compensation à ses petits déboires professionnels dans l'amitié de l'Italien Bellini, vers qui une vive sympathie le poussait et qu'il voyait souvent. Puis, dans son inclination pour une beauté célèbre, la comtesse Delphine Potocka. Elle avait 25 ans, un port majestueux, un nez au contour délicat, la bouche la plus passionnée, le front haut et soucieux des vraies voluptueuses. Toute l'allure évoquait une déesse élancée et puissante, mais ce qu'il y avait en elle de luxurieux était amorti par le sérieux du regard. Frédéric se laissa flotter dans le rayonnement sensuel de ce bel animal d'amour. Pour la première fois, la tête lui tournait. La voix somptueuse de Delphine l'enchantait. Il l'accompagnait au piano, s'évertuait à faire renaître l'âme, à lui rendre sa fleur, guettait de belles vibrations possibles. Mais l'âme était serve dans cette chair impériale. Et comme l'amour platonique vers lequel Chopin voulait la diriger semblait à Delphine comique et impossible, elle se donna avant qu'il eût songé à le lui demander. L'aventure dura peu. La comtesse avait un mari jaloux. Il emmena sa femme en Pologne, d'où elle revint seulement plus tard. Mais elle garda toujours à Chopin une affection sincère. Les seules lignes d'elle à l'artiste qui se soit retrouvée en fournissent un témoignage discret. Ouvrez les guillemets. « Je ne t'ennuierai pas par une longue lettre, mais je ne veux pas rester plus longtemps sans nouvelles de ta santé et de tes projets d'avenir. Je suis triste de te sentir abandonné et solitaire. Ici, mon temps se passe de façon ennuyeuse, et je souhaite de n'avoir pas plus de désagréments encore, mais j'en ai assez. Toutes les personnes à qui j'ai fait du bien m'ont payé d'ingratitude. Au total, la vie n'est qu'une immense dissonance. Dieu te bénisse, cher Chopin. Au revoir. » Fermez les guillemets. Une immense dissonance, ainsi déjà parlé Liszt, Il y a dans ses chairs tourmentées un invincible essor vers de plus suaves harmonies, tout au moins dans ces êtres, mâles ou femelles, en qui le féminin l'emporte. Mais tel n'est pas le cas de Chopin, dont le travail musical est toujours viril. Il eût souscrit à cette parole de Beethoven : l'émotion n'est bonne que pour les femmes. Pour l'homme, il faut que la musique lui tire du feu de l'esprit. Et plus encore, peut-être, à celle-ci, citée par Schumann d'après le poète Jean-Paul Richter. L'amour et l'amitié passent sur cette terre un voile au front et les lèvres closes. Aucun être humain ne peut dire à un autre comment il l'aime. Il sent seulement qu'il l'aime. L'homme intérieur n'a pas de langage. Il est muet.